Nous allons donc continuer notre promenade dans cette galerie, non pas de tableaux, mais de manuscrits, illustratifs de la façon dont le Coran était copié, dans des copies certes de haut niveau, au cours des premiers siècles de l'islam. Comme je le disais à propos du Coran bleu dont il a été question la semaine dernière, rares sont les manuscrits coraniques anciens à avoir atteint une notoriété suffisante pour être désignés par un nom et non comme le manuscrit numérotant de la bibliothèque telle et telle. Ce pourrait être donc, en plus du Coran bleu, le cas d'un autre manuscrit conservé à Kairouan. Le Coran bleu, je vous rappelle, se présente de cette manière. C'est un manuscrit que Tim Stanley avait suggéré en son temps d'appeler « The Quran on White Vellum », le Coran sur parchemin blanc, à cause de la blancheur particulière du parchemin utilisé. Cette copie en caractère doré, avec cinq lignes à la page, était donc destinée à devenir aussi un manuscrit célèbre. Depuis 1976, date de l'exposition à la British Library dans le cadre du festival World of Islam, des feuillets de ce manuscrit ont fait leur apparition dans plusieurs expositions, mais aussi dans des ventes publiques. La relative multiplication de données qui s'en est suivie permet aujourd'hui d'en savoir plus sur cette copie du Coran, bien que de nombreux points restent malheureusement obscurs, à commencer par son histoire, ou du moins une bonne partie de son histoire. À ce jour, en effet, nous n'avons pas connaissance de l'existence d'un colophon qui nous dirait qui l'a copié et à quelle date. Copié à raison de cinq lignes en encre dorée à la page, ce Coran reste d'un format relativement modeste, chaque feuillet en parchemin mesurant environ 15 cm sur 21, soit un tout petit peu plus que le Coran d'Amadjour qui mesure 12,5 sur 20. Ces données externes, dans tous les cas, permettent de conclure d'emblée qu'il s'agit d'un exemplaire en plusieurs tomes, conclusion renforcée par le nombre des décors en pleine page qui subsistent et qui figuraient soit au début, soit à la fin des tomes. Les nombreuses enluminures qui sont connues, de même que la chrysographie, font incontestablement de cette copie du Coran un exemplaire luxueux, bien que sa confection n'ait pas réclamé des quantités considérables de parchemin. En me fondant sur la quantité de textes présents sur un feuillet, ce qui est une façon un petit peu gauche d'évaluer la quantité totale du texte, j'ai pu estimer à environ 2100 le nombre total des feuillets à l'origine, ce qui représente une surface totale de parchemin comprise entre 65 et 70 mètres carrés, ce qui, vous en conviendrez, est relativement modeste par rapport à d'autres copies dont nous avons parlé ici. Depuis plus d'un demi-siècle, on savait que ce manuscrit figurait dans le fond de la grande mosquée de Kairouan. Ibrahim Chabbou avait en effet publié la reproduction d'un feuillet de manuscrit avec son édition de l'inventaire médiéval de la bibliothèque qui apparaît sur l'écran. Récemment, Marie-Geneviève Guédon a proposé de l'identifier comme le premier des manuscrits sommairement décrits dans ce texte. Une information directe semble confirmer la présence de cette copie à Kairouan. Dans la marge d'un feuillet, au ras des lignes d'écriture et perpendiculairement à celle-ci, on peut lire, donc la fin, donc c'est ce qui est sur le côté, Hubisa Ala donc, a été constitué waqf en faveur de la grande mosquée de la ville de Kairouan. Plusieurs collections possèdent des feuillets du manuscrit. La dispersion de ces derniers s'est vraisemblablement faite en plusieurs étapes, avant même que ne soit révélée en 1897 l'existence du fond de la grande mosquée de Kairouan, dont vous reconnaissez le minaret. En 1921, Bernard Roy dressait un tableau sévère de la situation antérieure. Je le cite, « Les feuillets déreliés de la bibliothèque de la Grande Mosquée ont été pendant de très longues années livrés à la destruction et au pillage. J'ai fait recueillir, ajoutait-il, classer, cataloguer ce qui, par miracle, avait échappé à l'une et à l'autre. » Fin de la citation. Des feuillets du Coran dont il est question ici figurent, par exemple, dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, mais ça n'est pas la seule à en posséder. L'histoire de la dispersion des feuillets de cette copie a toutefois été plus complexe. Un document associé aux feuillets qui figuraient dans la collection Ludwig et sont maintenant au musée Getty de Los Angeles indiqueraient en effet qu'ils avaient appartenu au sultan Mahmoud II, qui a régné sur l'Empire ottoman entre 1808 et 1839. Sur une reproduction que je n'ai pas à l'écran parce qu'elle est d'une qualité épouvantable, j'ai noté dans la marge supérieure d'un feuillet la présence d'un petit chiffre 37 en chiffres arabes. Ce dernier ne s'apparente en rien aux foliotations observables sur les feuillets de Kérouan, mais doit correspondre aux usages d'une bibliothèque orientale, peut-être précisément celle du sultan ottoman. Je n'ai pas pu trouver d'informations sur les épisodes antérieurs de l'histoire du manuscrit, même si nous avons toujours cette preuve que, au début du XIIe siècle, si c'est bien ce qui figurait sur l'inventaire, le manuscrit était à Kérouan. Le plus près de nous, à une date récente, à partir des années 80 du XXe siècle, les catalogues des ventes aux enchères montrent que la dispersion de ces feuillets s'est poursuivie. Leur origine ne peut être établie avec certitude, mais il semble hautement probable que certains d'entre eux avaient été retirés de ce même fonds de Kérouan à une date relativement récente, sans doute après l'époque dont parle Roy. Dans le dépôt de la grande mosquée de cette ville, avant que ne soit entreprise la restauration dans les années 80, cet exemplaire du Coran était depuis longtemps à l'état de membra dejecta. Les manuscrits coraniques anciens, de même que d'autres textes, se présentaient comme des fragments de dimensions variables allant du feuillet isolé à une séquence substantielle de cahiers. Au cours des siècles, comme on l'a vu, des disparitions d'ampleur variable sont intervenues soit pour des raisons naturelles, soit parce que des curieux ont soustrait des feuillets qui les intéressaient. On peut tenir pour acquis qu'une partie seulement de notre manuscrit nous a été conservée. Il ne peut en effet être exclu, dans l'état des données dont nous disposons actuellement, que des tomes entiers aient disparu depuis une certaine date. La reconstruction sera donc difficile, puisque d'une part, il y a des manques dont nous ignorons exactement ce qu'ils étaient, et d'autre part, une dispersion qui fait que parfois des feuillets peuvent être dans une collection sans que nous ayons d'informations à leur sujet. L'emplacement original des enluminures, on le verra tout à l'heure, qui figure sur des feuillets dépareillés, pose un problème, puisque parfois ils n'ont pas de texte qui leur est associé, donc nous ne savons pas s'ils appartenaient à un volume ou à un autre. Dans l'attente d'un catalogue de la collection de Kérouan, qui donnera une vision plus claire de ce qui reste sur place et de l'articulation des différents éléments entre eux, je me propose aujourd'hui de faire un état du manuscrit sur la base des informations disponibles et d'indications que j'ai glanées sur place. Ce Coran est copié donc sur du parchemin, et du parchemin de bonne qualité, ce qui avait poussé Tim Stanley à le baptiser « The Quran on White Vellum ». Dans l'échantillon que j'ai pu constituer, il n'y a absolument pas de défaut, qu'il soit dû à une blessure ou à une mauvaise préparation de la peau, et c'est une différence par rapport à d'autres exemplaires où nous avions noté des particularités de cet ordre. En revanche, il semble bien que les cahiers aient inclus de nombreux feuillets isolés, d'ailleurs vous verrez à l'écran à plusieurs reprises des talons, qui correspondent à cette habitude de mêler au bifeuillet des feuillets isolés de manière à constituer les cahiers, une technique tout à fait commune à l'époque, c'est-à-dire 9e siècle et début du 10e siècle. Il est cependant difficile d'établir la proportion des premiers, les feuillets isolés, par rapport aux bifeuillets, ce qui pourrait être une façon d'évaluer la qualité du manuscrit. Plus on a de bifeuillets, plus le manuscrit était coûteux. Quel type de cahier était employé ? Tim Stanley faisait l'hypothèse de quignon, une proposition qui paraît vraisemblable. Dans la collection de Kérouan, on a d'ailleurs un feuillet qui s'achève précisément au point où débute le texte du bifeuillet publié par Stanley et qui a permis cette évaluation de cahier de 10 feuillets. En tenant compte des enluminures initiales, il semble que le volume de texte présent corresponde généralement à une séquence de quignon à quelques feuillets près. À la fin, par exemple, on peut avoir des cahiers qui ne sont pas complets. Le parchemin est disposé selon la séquence la plus répandue, c'est-à-dire avec le côté poil sur les rectos de la première moitié du cahier, tandis que dans la deuxième moitié, c'est le côté chair qui est au recto. Une particularité du manuscrit tient à la présence de nombreuses traces de réglures. Celles qui sont associées au décor ne doivent pas nous surprendre. Dans la tradition de l'époque, en effet, les enlumineurs préparent généralement leur décor avec des réglures à la pointe sèche, et on en voit ici un bon exemple. Ces lignes correspondent à un cadre que vous voyez derrière, et vous notez donc qu'avant de l'exécuter, l'enlumineur avait tracé des lignes droites de manière à mettre son décor bien en place. De manière beaucoup plus surprenante, des réglures à la pointe sèche ont précédé le travail des copistes dans une partie du manuscrit. Dans l'état actuel de mes observations, elles apparaissent sur un feuillet qui correspond à la sourate 63 et semblent se poursuivre jusqu'à la fin. Les dimensions de la surface d'écriture ne sont pas impliquées entre le début et la fin, mais c'est un point particulier puisque nous avons observé ce détail sur le Coran bleu où il y a une réglure et nous avons vu que cette réglure avait donné lieu à toutes sortes d'hypothèses. Cette utilisation de la réglure, une fois de plus, irait en faveur de l'hypothèse que les personnes qui ont écrit ces caractères dorés étaient par profession des enlumineurs et qu'ils utilisaient les techniques qui leur étaient familières et non pas des copistes plus habitués à travailler avec de l'encre noire. Comme nombre de manuscrits coraniques en plusieurs tomes, cette copie est le résultat d'un travail collectif. L'analyse de l'écriture et des décors permet d'identifier plusieurs mains qui ont collaboré au projet. L'étude paléographique se trouve toutefois confrontée à une situation particulière, et je reviens à mon propos de la semaine dernière à propos du Coran bleu, puisque la technique employée pour copier le texte fait appel à deux opérations distinctes. L'une, la première, consiste à appliquer la dorure sur le parchemin, probablement à l'aide d'un pinceau. L'autre, à dessiner le contour de la lettre avec une encre qui va du brun au brun noir, avec un calame à pointe fine. Cette combinaison de deux étapes dans la production de l'écriture place ce Coran à part au sein du groupe des écritures composées auxquelles on peut le rattacher. Elle pose notamment la question de savoir si deux intervenants distincts ont réalisé ces étapes ou si la même personne s'est chargée de la dorure, première étape, et du contour, deuxième étape. Elle a pour conséquence de donner plus de poids dans le cadre de l'analyse de la forme des lettres, au second élément qui a été réalisé avec une plus grande précision dans le détail une fois la dorure appliquée, même si des retouches ont parfois été apportées par l'artisan en charge de la dorure de manière à améliorer l'apparence. La qualité du résultat varie, elle est liée à l'habileté plus ou moins grande des intervenants et vous noterez sur certaines photos que la dorure passe un peu au-delà, par exemple, du contour à l'encre. Le texte, comme vous voyez sur l'écran, est partiellement vocalisé avec des points rouges. Donc ces éléments ici sont une vocalisation ancienne. Rouge donc pour la vocalisation, bleu pour indiquer ce qu'on appelle la gémination, le tajdid, c'est-à-dire le redoublement de la consonne, et enfin vert pour une attaque vocalique qu'on appelle le hamza qui apparaît par exemple ici. Donc trois couleurs différentes qui informaient le lecteur de la façon dont il fallait lire. En plus de cela, les diacritiques sont abondants, ce qui tranche avec les manuscrits que nous avons vus jusqu'à présent. Ils sont non pas sous la forme de points, comme ce serait le cas de nos jours, mais sous la forme de traits qui parfois prennent une forme légèrement incurvée. Le fa et le kaf sont identifiés, le premier par un tiret qui est placé au-dessus de la tête de la lettre et le second par deux tirets semblablement positionnés. Cette observation n'est pas inutile puisque cette façon de faire est conforme à un usage propre à l'Orient par opposition à la pratique caractéristique du Maghreb où on ponctue le kaf avec un point au-dessus et le fa avec un point en dessous. Vous avez ici par exemple un fa avec son petit trait et vous avez quelque part un kaf que je crois que c'est ici. En fait, de là où je suis, je vois assez mal, mais enfin, il y avait un cas avant que j'ai... Oui, d'accord, bon, merci. Et enfin, dernier détail qui est tout à fait intéressant, parce que c'est une particularité ancienne, ce sont ces signes que vous voyez comme celui-ci, en forme d'un hamza ou d'une tête de Aïn. Donc c'est un signe qu'on appelle techniquement Ihmal, qui sont des signes destinés à dire que la lettre n'est pas ponctuée. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un Aïn, et on ajoute en dessous un petit Aïn pour dire que ce Aïn, c'est bien un Aïn et ce n'est pas un Aïn. De même, sous le Ha, on va trouver un petit Ha pour dire que c'est un Ha, pas un Jim ni un Ha. Donc c'est un manuscrit qui, si j'ose dire, porte à la fois les bretelles et la ceinture pour éviter toute erreur de lecture. En revanche, très curieusement, le sin n'est pas spécifié. On devrait théoriquement, si le système avait été cohérent, trouver un petit sin sous la lettre sin pour indiquer que ce n'est pas un shin, ou même chose pour le sod et le dod. Enfin bon, ça ce sont des détails, le système fonctionnait ainsi. Au moins trois mains différentes peuvent être identifiées malgré les spécificités de l'exécution de la copie que j'ai signalée. Et donc je parlerai de mains, même s'il y en avait au moins deux, et peut-être même davantage. Alors les trois mains vont être illustrées de la même façon. En haut, j'ai fait un gros plan sur les lettres caractéristiques qui apparaissent groupées dans ce tableau. Vous avez la main 1, la 2 et la 3. Et ici, une figure pour illustrer une page avec cette écriture. La première main donc apparaît au début de la série, et dans l'état actuel de la documentation, elle pourrait être limitée aux deux ou trois premiers volumes. Les vestiges dont j'ai disposé sont trop réduits pour être absolument sûr qu'il en va ainsi. Cette main se caractérise par la forme de l'alif isolé qui se rattache au groupe D des écritures abbassides anciennes, avec cette forme caractéristique en croissant du retour inférieur. L'amorce inférieure donc, se présente comme un croissant, la haste est verticale et rectiligne, avec en haut un biseau faiblement concave. Vous voyez ici, mais c'est aussi vrai par exemple pour l'âme. L'article Al, que l'on a ici, par exemple, mais qu'on voit, par exemple, à cet endroit, dans l'article arabe Al, le alif est clairement séparé du lam par un espace. Le noun isolé s'apparente très clairement à des formes plus classiques du groupe D. La tête n'est pas plus épaisse que le corps de la lettre auquel elle se rattache par une courbe qui est clairement identifiable. Tandis que le segment principal, lui, est tout à fait vertical et pas du tout incurvé. Le lam alif ressemble à un X, on en voit un exemple là-haut, à cette réserve près que la branche supérieure droite s'incurve légèrement en direction de l'autre. Le support dessine un triangle isocèle. On note en outre que la finition de l'écriture, dans l'ensemble de cet exemple, est particulièrement soignée et que la dorure a été méticuleusement appliquée de manière à ne pas laisser de blanc à l'intérieur du contour tracé à l'encre. La deuxième main, donc c'est celle-ci qui apparaît en gros ici et qui est illustrée sur cette figure, est attestée sur des fragments dont les premiers proviennent du volume 4, si mes estimations sont bonnes, dont subsiste un ensemble de feuillets maintenant conservés à Los Angeles. C'est ce manuscrit de la collection Ludwig dont je parlais initialement, donc entre ce volume et le 25e tome de la série. Il faudra attendre, bien sûr, de connaître dans le détail le contenu de la collection de Kerouan pour s'assurer que la main qui est présente ici est effectivement continue entre ces deux points extrêmes de la série. Il n'est pas interdit de penser qu'un volume a pu être exécuté par quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. Elle se rattache, comme la précédente, au groupe D, mais l'alif présente une amorce en croissant moins régulière et surtout une haste qui, dans sa partie supérieure, s'incurve de manière sensible vers la gauche. On le voit ici. Donc, tout à l'heure, nous avions quelque chose qui était bien droit. Maintenant, on voit qu'il y a une petite tendance à dessiner un S, même si cette comparaison peut être un peu excessive. Donc, elle s'incurve légèrement. Et le biseau supérieur est donc plus large, et ce qui fait que la concavité est accentuée dans la mesure où la pointe ici est plus haute que l'autre, davantage en tous les cas qu'ici où elle était moins, il y avait moins de différence de niveau. Dans l'article défini, la lymphe est également bien séparée du lame, comme dans le cas précédent. Le noun isolé, qu'on voit ici, possède une apparence plus gracile que ce n'était le cas dans le premier exemple. Tim Stanley avait signalé la présence d'une forme alternative en demi-cercle que je n'ai pas illustré ici, mais qui correspondrait grosso modo à ce qu'on voit dans le dessin de ce mot, de cette préposition « phi », où au lieu d'avoir une terminaison qui devrait ressembler à cela, on a une sorte de cercle. Deux formes de lamalif coexistent. Dans la première, peut-être la plus répandue, on les voit donc ici, la branche de droite est pratiquement verticale, celle de gauche est en rectiligne. Les deux côtés du triangle qui forment la base de la lettre ne sont pas égaux. La seconde forme se distingue par une base en triangle, presque isocèle, et par deux branches incurvées l'une vers l'autre, hein, c'est cette forme-là ou celle-là, incurvées l'une vers l'autre. L'espace entre ces dernières, dans le deuxième cas de la malif, est rempli soit de bleu, soit de rouge, mais il s'agit sans doute d'un ajout postérieur. L'écriture de cette main est relativement homogène, mais quelques tracés inhabituels, comme celui-ci que je signalais déjà, peuvent être relevés, qui suggèrent parfois l'influence d'autres styles d'écriture que celui auquel cet exemple se rattache. La troisième main semble être intervenue à partir du tome 26 de la série. L'alif reste assez proche de ce qu'on a observé précédemment, donc là on voit quelque chose qui est assez similaire, avec une forme, une tendance à achever le croissant, peut-être de manière plus effilée. Vous voyez qu'il y a cette pointe, mais il se peut aussi que ce soit la dorure qui soit moins bien appliquée. C'est dans la position de cette lettre, l'alif, par rapport aux lames dans l'article, que se note une très claire différence. Elles sont accolées et non pas séparées. Précédemment, nous avons eu ce genre de situation. Là, en revanche, nous avons les deux lettres qui sont l'une comme l'autre, ce qui, par parenthèse, serait un indice supplémentaire pour indiquer que c'est un enlumineur qui a fait le travail, dans la mesure où, dans les enluminures de l'époque, quand il y a des caractères, généralement, l'alif et le lame sont collés l'un contre l'autre, puisqu'après ça, il suffit de tracer avec le calame un trait vertical pour séparer les deux lettres et donner la lecture correcte. Ce point est intéressant et j'y reviendrai sans doute un peu plus tard. Cette façon de faire est également présente dans les titres des sourates du manuscrit. Le noun se rapproche davantage de celui que nous avons rencontré dans le premier cas. Il n'y a pas cette espèce de tendance à faire une forme extrêmement fine, avec l'apparence verticale du corps de la lettre qui est bien maintenue. La branche droite du lamalif est plus nettement incurvée que celle que donne à cette lettre la première main, mais sans être clairement verticale comme c'était le cas chez le deuxième copiste. Comme dans la contribution de la main précédente, le ta et le kaf présentent une forme alternative incurvée. Les deux ont ce kaf particulier, alors que le premier avait systématiquement la forme qu'on voit apparaître ici. Donc il y a deux formes dans ces deux mains pour ces deux lettres. Donc cette écriture, j'avais initialement l'impression qu'elle était arrangée dans ce que j'appelle le groupe D1 de ma typologie, mais depuis la publication d'un certain nombre de feuillets, je suis amené à réviser ma position et à penser qu'il y a sans doute plus de proximité avec les groupes stylistiques D5B, voire D5C, celui-ci étant caractérisé par cette forme de lettres. Les nouveaux éléments donc invitent à modifier également la datation en fonction de ces nouvelles observations. Pour conclure ces remarques sur l'écriture, qui sont un petit peu arides, il convient de signaler que la basmala pourrait aussi avoir connu des spécificités dans le manuscrit. La formule qui vient au début des sourates, donc qui est ici, la formule initiale des sourates est copiée sur deux lignes en tête des sourates 30 et 42, alors que généralement elle est disposée sur une seule ligne dans les autres exemples que je connais à partir de la 44. En l'absence d'exemples probants provenant de la première moitié de la série, malheureusement, au début du Coran, il y a très peu de sourates, elles sont très longues, donc les exemples de basmala sont plus rares, on a moins de possibilités de trouver des informations que pour la fin du Coran, où leur rythme extrêmement soutenu fait que nous avons de nombreux exemples. Donc il y a une difficulté à faire des comparaisons qui tient à la situation même du texte. J'en viens maintenant au décor. Les décors présents dans les fragments préservés à Kairouan et ailleurs nous donnent l'image d'un manuscrit luxueux. La dorure utilisée pour l'écriture nous mettait déjà sur cette piste, mais nous allons voir que les enluminures elles-mêmes sont extrêmement abondantes. Il y en a trois types. D'abord, dans le texte lui-même, les versets, qui sont ponctués par des rosettes dorées. Les groupes de 5 et de 10 sont signalés par des ornements spécifiques, les plus importants étant ceux des dizaines, qui impliquent d'ordinaire dans ce manuscrit non pas un seul élément, mais deux éléments, placés l'un dans le texte et l'autre en marge. C'est une situation qui rappelle le Coran bleu, à cette différence près que les deux enluminures sont contemporaines et non pas séparées chronologiquement par un laps de temps indéfini, ce qui est le cas du Coran bleu. Deuxième type d'enluminure, les titres des sourates, inscrits dans des bandeaux accompagnés de vignettes avec un décor complexe, comme celui qu'on voit sur l'écran. Dernier cas, des décors en pleine page, placés au début et à la fin de chaque tome. Dans le premier cas, en début de volume, la double page où figurent ces décors vient après un décompte enluminé des éléments constitutifs de la portion du texte concerné, tandis que dans l'autre, il vient généralement après un cadre où figure l'explicite, c'est-à-dire la fin de la section du texte du Coran concerné. Dans la marge, les fractions étaient signalées en caractère bleu cerné d'or, mais nous en avons très peu d'exemples malheureusement. Il manque, dans l'échantillon dont je dispose, un décor qui est un peu mineur, celui des prosternations rituelles ou sajda, qui figure dans la marge, mais dans ce que j'ai vu jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé la trace. L'ampleur du programme décoratif du manuscrit justifiait donc une répartition du travail entre plusieurs intervenants. La contribution de certains d'entre eux peut être aisément identifiée. C'est notamment le cas des divisions en versets, où trois grands types apparaissent. Le premier, présent au tout début de la série, c'est-à-dire sur le fragment de la main numéro 1, est tout à fait singulier au sein de la production manuscrite de l'époque. Il s'agit en effet de rosettes composées de deux couronnes de petits pétales, c'est ce décor-ci, de petits pétales rehaussés à chacune de leurs jonctions par un point de couleur. Le centre du décor est occupé par un petit cercle rouge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ne se trouve que sur ce manuscrit. Le second type, rencontré entre les sourates 3 et 44, est beaucoup plus proche des formes communément utilisées sur les manuscrits coraniques du IXe siècle. La rosette comporte de gros pétales, comme ici, ici. On verra qu'il y a une petite différence. Gros pétales marqués en leur centre par un point à l'encre et sa circonférence est soulignée par un épais trait bleu. Le nombre des pétales varie. Les décors en comptent d'abord une dizaine, puis ce nombre tombe à 6 environ vers la fin de la séquence. Le troisième type de séparation de versets est un peu plus petit. La rosette, qui s'organise autour de deux petits cercles concentriques, compte 6 pétales, rehaussés en leur centre par une touche de rouge. C'est ce qu'on a ici. Donc c'est un peu une variante du précédent. leur bord extérieur est souligné par des séries de petits traits à l'encre. Alors ça, c'est quelque chose aussi de très particulier au manuscrit. Il y a une espèce de volonté de faire du réalisme, si j'ose dire, pour ces décors. Ces enluminures de séparation des versets commencent à apparaître à la fin de la portion de texte copiée par la main B dès la sourate 52, c'est-à-dire un peu avant que le deuxième copiste ne cède la main au troisième. Les décors indiquant les groupes de versets montrent également des différences sensibles. Dans le corpus dont je dispose, je n'ai malheureusement qu'un un nombre relativement réduit, ce qui fait que les conclusions que je peux tirer sont aussi un peu limitées. Le manuscrit se distingue tout d'abord de la plupart des copies contemporaines du Coran en signalant les groupes de cinq versets avec une rosace comportant en son centre le mot « Khams », c'est-à-dire « cinq », qui est doré sur un fond de couleur. Il y en a trois types, dont deux seulement sont illustrés, le troisième est en trop mauvais état pour le présenter. Le premier est à peu près similaire aux rosettes de fin de verset. Le deuxième, souligné par un trait rouge, se caractérise par le pourtour plus fin du cercle central et des pétales de forme plus carrée et qui comportent en leur centre un point à l'encre. Dans tous les cas, le mot « Khams » est écrit en caractère doré sur fond bleu. Les groupes de 10 versets sont signalés dans la surface écrite par des rosaces, que vous voyez ici, qui sont plus petites que le décor principal, donc des rosettes dorées dans lesquelles est inscrite une lettre chiffre, c'est ce que vous voyez à cet endroit, et dans la marge de gouttière, par une rosace avec le nom de la dizaine en toutes lettres, donc ce sont les décors plus importants qui sont à côté. Ce dernier décor est décliné selon différentes formules apparentées à des modèles bien connus, dont j'ai fait la typologie et ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Un détail doit être souligné, le décor placé dans le texte, donc celui qui reprend la forme des décors de fin de verset, contient en son centre, je l'ai dit, une lettre chiffre où on peut observer quelque chose de particulier, c'est le fait que la lettre sin, dans ces deux cas, est indiqué pour 60. Vous voyez ici, sitoun, donc les deux fonctionnent ensemble. Le fait qu'on utilise un sin avec la valeur 60 est une pratique orientale. Certes, on sait que dans le passé, au début, dans les premiers siècles, le sod avait cette valeur et qu'elle s'est maintenue dans la partie occidentale du monde musulman. Mais au cours du IXe siècle, le sin avec la valeur 60 s'est répandu en Orient et est devenu la norme là-bas. Vous vous souvenez sans doute que cet argument avait servi à Jonathan Bloom pour dire que le Coran bleu avait été produit dans la partie occidentale du monde musulman parce que 60 était indiqué par un sod. Et donc c'est vrai, disons, après le IXe siècle, avant ça ne l'est pas. Voilà un détail pour vous permettre de voir mieux le signe qui figure dans ce décor. Les titres des sourates que j'ai pu retrouver proviennent exclusivement de la seconde moitié du Coran, et ce pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est là où il y en a le plus, et donc une loi statistique fait qu'ils ont été plus nombreux à survivre dans la seconde moitié du Coran. Leur présentation est relativement homogène. On a, dans tous les cas, pratiquement, un bandeau accompagné par une vignette dans la marge de gouttière. Donc c'est là, la marge de gouttière, c'est la marge extérieure. La marge de fond est ici. Et vous voyez ici la confirmation de ce que je vous disais en commençant, c'est-à-dire que beaucoup de feuillets étaient, dès le départ, des feuillets isolés qu'on avait, qui étaient un peu plus grands qu'un feuillet qui représentait la moitié d'un mi-feuillet, de manière à préparer un talon, c'est-à-dire on repliait l'extrémité du parchemin pour former un pli dans lequel, après, le relieur pouvait coudre les cahiers et attacher la reliure dessus. Donc c'est cette caractéristique dont vous avez déjà vu sans doute un exemple avant, mais elle est particulièrement claire sur cette photo. Dans un premier groupe de bandeaux, dont fait partie celui que l'on voit en ce moment, les informations sont en caractère de couleur bleue ou rouge, avec un contour doré. Ceux où ces données sont écrites en caractère doré sont toutefois les plus nombreux, bien qu'il y ait des variations dans la présentation et également dans la forme des caractères. Il semble là aussi que nous ayons affaire à plusieurs copistes. Vous voyez que la forme des lettres ici n'est pas exactement la même, peut-être aussi parce que la technique n'est pas la même. En tous les cas, il y a une divergence dans la présentation. Les encadrements de ces bandeaux de sourate font généralement appel à la tige rondulée ou à une tige en forme de ligne brisée, qui est une variante de la précédente et que l'on observe ici. Les fonds sont tantôt d'inspiration végétale, réservés sur des hachures, tantôt colorés et tantôt avec un dessin géométrique. Un dernier groupe de bandeaux contient le titre et le nombre des versets en caractère blanc réservé sur le fond. C'est celui-ci. L'encadrement fait appel au motif de la tige ondulée, de nouveau, de la torsade, à des séquences de légendes, de losanges ou de cœurs, ou encore de chaînes. Donc beaucoup plus de variétés, mais certaines de ces formules sont déjà présentes dans les deux groupes précédents que j'ai décrits. Le bandeau est toujours séparé de l'espace où figure le titre par un filet blanc. C'est-à-dire que systématiquement, dans ces décors, on va avoir cette disposition, un rectangle central, isolé, si j'ose dire, par rapport à l'extérieur, cet élément de parchemin laissé sans décoration. Les vignettes sont particulièrement bien représentées dans le corpus disponible. Elles recourent au même répertoire d'inspiration végétale et sont toutes construites à partir d'un axe de symétrie horizontale. Vous voyez qu'il y a toujours cet élément qui est indiqué plus ou moins fortement. À partir d'un axe de symétrie horizontale avec des variations stylistiques qui nous permettent de reconnaître différents groupes. Le plus important numériquement est formée par celles qu'on voit sur l'écran, que j'appelle les vignettes en bourgeon, à cause de cette extrémité finale, qui s'organise entre deux éléments placés aux extrémités de l'axe. Une base, toujours composée de d'une paire de feuilles ou d'ailes, et une extrémité en bouton, généralement triple. Avec le bouton étant formé par ces deux éléments et cet élément rond. On le retrouve ici, on le retrouve ici. Donc ça, c'est l'élément constant qui est utilisé par les enlumineurs qui sont à l'origine de ces décors. Entre les deux se déploient des paires de feuilles dorées qui s'appuient sur l'axe horizontal. Leurs pointes chevauchent celles qui sont contiguës de manière à fermer en quelque sorte la vignette. L'impression qu'on a, c'est que, si vous voulez, on les a systématiquement ramenées comme si on avait pensé dès le début à colorer en bleu les interstices et donc à donner dès le début un cadre pour placer cette couleur bleue. Les formes de ces feuilles très stylisée, varie sensiblement. On en notera une qui est relativement fréquente, qui évoque la lame d'un cimeter. Vous pardonnerez cette imagerie belliqueuse, dans la mesure où c'est à l'origine une feuille, mais elle a une forme qui est assez caractéristique, souvent placée à la base de la vignette, et de nombreuses variations, clin d'œil au Yémen, en forme de jambiya. Avec cette forme, la jambiya, c'est le poignard traditionnel des Yéménites avec dont le fourreau est recourbé. Donc on a un petit peu cette impression dans ce type de feuille qui figure très souvent dans les vignettes. Les vignettes sont toutes soulignées par un trait bleu, de même que le remplissage de l'intérieur des espaces entre les feuilles. Un deuxième groupe de vignettes est constitué de celles dont la partie centrale est formée par un rinceau, c'est-à-dire cet élément en boucle d'une feuille plus ou moins déformée sur une tige qui s'enroule. Donc les deux éléments placés aux extrémités de l'axe occidental restent les mêmes. On a toujours à voir notre bourgeon, on a toujours un élément double à la base. Mais les composantes sont beaucoup moins denses. Vous noterez qu'ici, on a quelque chose qui est très compact, très massif, alors que dans ce groupe de vignettes, les choses sont plus aérées. L'ornementation de l'intérieur des feuilles fait intervenir l'encre et la couleur rouge, avec un répertoire peut-être plus étendu d'écailles et de compartiments aux formes variées. Les formes elles-mêmes ne coïncident pas complètement avec celles du premier groupe. On retrouve bien sûr la forme en lame de cimeterre, mais à côté de feuilles bifides ou d'autres qui s'achèvent en forme de crosse plus ou moins accentuée. Les deux derniers groupes identifiés sont peu importants numériquement au sein du corpus. L'un est constitué par ce que j'ai appelé des vignettes baroques, on en a deux exemples, dont les feuilles, c'est ces deux compositions, dont les feuilles puisent un répertoire extrêmement spécifique de formes contournées ou déformées par rapport aux précédentes. Dans le second se trouvent trois vignettes, deux circulaires, illustrées ici, l'autre piriforme, dont l'intérieur est entièrement rempli par un décor végétal dans un cas, géométrique dans le second. Alors, les volumes, bien sûr, s'ouvraient par une double page enluminée, j'en ai parlé au début et je termine par cela, double page formée par deux cadres accompagnés de vignettes médianes dans lesquelles figurait le nombre des éléments constitutifs de la section concernée, c'est-à-dire le nombre des versets, nombre de mots, nombre de lettres, ainsi que l'indication du volume dans la série. Seuls subsistent quatre moitiés droites ainsi que trois moitiés gauches. Le cadre lui-même est dessiné par une torsade à deux brins doubles qu'on voit donc ici, prise entre deux filets dorés et rehaussée de points de couleur. Dans le champ, les trois lignes du décompte sont alternativement sont en caractère de couleur avec leurs contours soulignés à l'or, donc une parenté avec les décors de sourate que nous avons vus tout à l'heure. Et c'est avec ces décors-là qu'il faut établir un parallèle. Donc ça, c'est l'élément qui ouvrait le volume. À la fin du volume, avant le décor final, on avait des doubles pages avec un cadre où s'inscrivait la fin du texte. Donc le premier type de ces cadres est celui qui apparaît à l'écran, c'est véritablement un cadre, c'est-à-dire sur les quatre côtés, nous avons un filet doré qui encadre le texte avec un fond dessiné à l'encre. Et puis nous avons un deuxième type de cadre qui, cette fois-ci, est limité à deux bandes qui encadrent donc les trois lignes du texte, parfois moins quand il y a moins de texte. La fin des volumes, bien sûr, supposait de la part des copistes un certain contrôle du volume de texte, puisque, comme nous l'avons vu, les cadres ainsi que leurs substituts impliquent une réduction du nombre de lignes à trois au maximum, ce qui est le cas ici. Cette différence de conception entre les pages finales de texte encadrées pourrait s'expliquer par une répartition du travail entre différents enlumineurs. J'en viens maintenant au décor en pleine page. On a plusieurs exemples, les uns figurant en tête des volumes, après la double page avec le décompte, et les autres après le cadre final que nous venons de voir. Il n'est pas impossible toutefois que certains volumes se soient achevés sans enluminure, soit parce que l'artiste n'a pas fait son travail, soit parce qu'il n'y avait pas deux feuillets pour faire une double page. Tous ces décors sont accompagnés par une vignette, comme on le voit ici, placée dans la marge de gouttière, et ils possèdent tous un encadrement constitué d'une bande avec des motifs végétaux ou géométriques qui délimitent le champ. Ce dernier est le plus fréquemment divisé en deux carrés, eux-mêmes subdivisés par une sorte de X, très souvent des motifs dessinés par des arcs de cercle. Dans deux enluminures, le champ rectangulaire est découpé par un X, et dans un cas par deux demi-cercles qui s'entrecroisent, c'est ce que nous voyons à l'écran. Les subdivisions sont toujours tracées avec des filets blancs qui encadrent une bande de décor doré et le remplissage est de toutes sortes de compositions d'inspiration végétale ou encore de quadrillages très fins évoquant la mosaïque. Une enluminure en pleine page se distingue des autres. Il s'agit du décor qui précède le début du volume commençant avec le verset 1 de la sourate 67. Il adopte une solution consistant à partager le champ en deux rectangles allongés de part et d'autre d'un carré où est inscrit un cercle, une formule qu'on rencontre par ailleurs dans d'autres manuscrits du IXe siècle. C'est, encore une fois, toujours les mêmes procédés qui sont utilisés pour tracer les figures constitutives de ces décors. Les enlumineurs semblent avoir tiré parti des vignettes médianes des séquences des doubles pages initiales et finales pour renforcer la cohérence de ces ensembles. C'est-à-dire que les vignettes de la double page initiale et du double décor qui suit sont répétitives et de même à la fin du manuscrit, comme si on avait voulu unifier la présentation. Venons-en maintenant plus en détail à ces décomptes assez surprenants. Ils fournissent une information importante qui est restée jusqu'à présent inconnue. Contrairement à Richard Ettinghausen, qui avait compris que cette enluminure figurait en tête des volumes, Tarifa Saman, auteur de la première description d'un des décors en 1982, considérait qu'elle était placée à la fin du texte sans se rendre compte que cette interprétation se heurtait aux réalités codicologiques. En fait, il a travaillé sur le manuscrit qui se trouve, enfin sur le fragment qui se trouve à la collection Getty, dont le premier feuillet a été plié à l'envers et se trouve à la fin de l'ensemble. Et donc, au lieu d'en tirer, de le remettre à sa place, il a pensé que ce feuillet venait en fin de volume, alors que c'est exactement l'inverse. On voit ici une reproduction d'un manuscrit qui a été présenté à Latte, près de Montpellier, en 2001, où on avait la chance d'avoir le recto et le verso du feuillet. Donc on pouvait se rendre compte que ceci venait avant cela, hein, même si la photo donne l'impression du contraire. La notice ne disait malheureusement rien du lien entre les deux enluminures et c'est le lecteur qui devait restituer la séquence, donc recto-verso, avec un texte qui disait, bon, je vous fais la traduction, ça commence in medias res, puisque c'est la deuxième moitié du décor, 159, et le nombre, il s'agit en fait des versets, et le nombre de ces lettres est de 15 893. Donc vous voyez, c'était quelque chose de très précis sur la façon dont le manuscrit était divisé. Alors des décomptes des parties constitutives du Coran, sourates, versets, mots et lettres, sont bien connus, et les plus anciens datent de la fin du Xe siècle, enfin datés de manière précise. À la différence de ces derniers, ceux de la copie que nous voyons en ce moment ne concernent pas l'ensemble du texte sacré, puisque tous les autres sont associés à des Corans en un seul volume, mais ici nous avons un cas extrêmement curieux où c'est chaque tome de la série où ces éléments sont définis. Alors, est-ce qu'il s'agit de Juz, c'est-à-dire de Corans en 30 volumes? Eh bien non. La réponse se trouvait sur une enluminure qui se trouve à Kérouan, où on a le début de ces textes, et il y a en fait trois autres décors en plus de celui-ci qui confirment cette chose. Chacun commence en effet par l'indication du numéro du volume. Et donc on lit ici Al-Hadi Ashar, donc le tome 11e, mais surtout ce qui est intéressant, c'est la suite. Vous voyez ici Min Thamania wa Ishrin. Donc 28 volumes. 28 volumes, c'est quelque chose de très curieux parce qu'on n'a jamais entendu parler de Coran en 28 volumes. Mais bien sûr, l'explication, elle est simple. Ce sont des septièmes divisés à leur tour en 4, 4 fois 7, 28. Donc en fait, ça renvoie à une division tout à fait classique des Corans à l'époque ancienne. Le manuscrit était simplement une exploitation de ce découpage bien connu en septième qu'on a morcelé par la suite pour arriver à faire une série. Alors c'est tout à fait différent des lectures de Ramadan qui sont indiquées dans la marge de Coran en un volume produit dans l'Occident musulman, où on a les 26 lectures du mois de Ramadan, dans la mesure où on laisse toujours une marge pour pouvoir achever la lecture du Coran pendant le mois, donc il y en a moins que le nombre de jours dans le mois de Ramadan, donc ça, ça n'a rien à voir, c'est véritablement une autre chose, c'est quelque chose de tout à fait spécifique à ce manuscrit, et je n'en connais aucun exemple. Je connais des Corans en 14 volumes, c'est-à-dire chaque septième est divisé en deux, mais aucun autre cas de manuscrit où chaque septième est divisé en quatre parties. Alors, au début du manuscrit, on avait donc ceci, cette double page, avec l'indication du nombre du volume, ensuite l'indication du nombre des sourates, des versets, des mots et des lettres, donc quelque chose de tout à fait précis dans le découpage du texte. Alors, il s'écarte bien sûr un petit peu de ce qu'on sait des découpages classiques en septième, mais il n'y a pas lieu de s'étonner dans la mesure où ce ne sont pas des choses parfaitement scientifiques. Le découpage se fait avec le verset le plus proche du nombre exact, c'est-à-dire qu'on compte les lettres dans le texte du Coran, on l'indique et on regarde quel est le verset le plus proche et on décide, bon, ben, c'est la fin du verset. Donc parfois, c'est un verset de plus, parfois un verset de moins, mais enfin, on n'est pas en mathématiques, on est dans une présentation du texte. Donc, c'est là la chose la plus intéressante, sans doute, de voir une adaptation d'une division classique à une présentation assez proche de celle des 30 jours, avec toujours ce but de produire une véritable bibliothèque. Ces 28 volumes sont donc le résultat d'un travail collectif. Le caractère fragmentaire des données dont nous disposons laisse bien sûr la place à bien des doutes sur le détail de l'organisation de ce travail, mais les quelques indices que je vous ai présentés permettent déjà d'en savoir beaucoup plus sur la façon dont le manuscrit a été produit. Le corpus de feuillets que j'ai pu examiner permet de conclure que la tâche a été répartie grosso modo entre trois équipes de copistes et enlumineurs, voire copistes ou enlumineurs, puisque là, les attributions ne sont pas parfaitement claires, associés avec quelques intorses dans la réalisation du programme ambitieux que représentait cet exemplaire. Le changement de style des décors, qui se manifeste vers la fin de la partie copiée par la main B, laisse penser que le texte et l'enluminure n'ont pas été réalisés par la même personne, puisqu'il y a un empiétement, le décor change avant que l'écriture ne change. Donc, sans doute, le relais a été passé de manière différente. Aucun indice ne permet actuellement de décider si la transcription du texte a été confiée au sein de chaque équipe à une ou deux personnes, puisque la technique employée, la chrysographie, on l'a vu, oblige à diviser cette opération en deux étapes. Comme on l'a vu, la technique employée pour l'application de la dorure dans les trois derniers tomes s'apparente, à cause de cette réglure, à des façons de faire de la réglure et également de la façon dont sont collés le alif et le lam de l'article. Ce sont des techniques propres à l'enluminure, donc on pourrait penser que ce sont des enlumineurs qui étaient chargés de copier ce texte. Peut-être, après, c'était un spécialiste de l'écriture qui se chargeait de faire les contours. Malheureusement, on ne peut pas en être absolument certain. Le premier groupe d'intervenants, celui donc qui est en début du volume, est le plus difficile à définir. Il a eu au plus à sa charge les trois premiers volumes, donc c'est assez peu, et du coup nous avons très peu de feuillets pour préciser la façon dont ils ont travaillé. La qualité d'exécution de l'écriture et du décor est incontestablement supérieure à celle du reste de la copie. C'est un point intéressant parce que nous allons vous retrouver la même situation la semaine prochaine avec un Coran en 60 volumes où, en quelque sorte, au début, on met les meilleurs qui font le travail et après ça, il y a des équipes de gens qui sont peut-être moins compétents qui font le gros du travail. Le deuxième groupe a en principe réalisé la partie la plus importante, celle qui s'étend du 4e tome au 25e, l'identification d'un même style d'écriture dans les feuillets qui proviennent de ce gros ensemble n'exclut toutefois pas que le travail de transcription ait été réparti entre deux personnes ou équipes, voire davantage. Malheureusement, nous n'avons pas assez d'éléments pour arriver à subdiviser, disons, cet ensemble. Au sein de cette portion apparaissent les indices les plus clairs de la répartition des tâches entre les enlumineurs, plus que pour l'écriture. Les enluminures, en effet, placées dans le texte, permettent de conclure que vers la fin de la portion, l'auteur des décors et le copiste avaient cessé d'appartenir à la même équipe ou d'être la même personne. Les décors plus développés, notamment les vignettes ou encore les cadres finaux, trahissent quelques variations dans le style ou dans la conception qui sont sans doute à mettre également sur le compte d'un travail collectif, peut-être par une troisième équipe. Je rappellerai enfin qu'il ne peut être exclu que certains des volumes dont aucun fragment n'a pu être repéré ont été confiés encore à une autre équipe que celle que j'identifie comme la deuxième. Malheureusement, encore une fois, l'ensemble du manuscrit n'est pas totalement connu. Comme la première main, la troisième est un acteur mineur dans la réalisation de la copie par rapport à la précédente, qui est celle qui a fait le gros du travail. La façon dont elle a réalisé l'écriture, comme je le disais à l'instant, invite à penser qu'elle avait plutôt une formation dans le mineur. L'achèvement de la tâche a été conduit de manière moins cohérente que dans les deux cas précédents. Là où les personnes en charge des décors de fin de verset ont commencé leur intervention aux côtés de l'équipe précédente sans être toutefois complètement associés à elle. Ont-ils également été responsables des enluminures des groupes de 5 et de 10 ? La relative diversité de ces dernières invite à en douter. De la même façon, les bandeaux avec le titre des sourates et les vignettes montrent une certaine variété. Il est vrai, d'un autre côté, que la structure même du Coran, je l'ai dit à plusieurs reprises, fait que l'occurrence des décors de sourates est beaucoup plus importante dans la partie finale du texte, une particularité qui semble avoir été prise en compte dans l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez une multitude de décors de sourates et donc une multitude de vignettes à exécuter. Donc il est possible que sur cette dernière partie, il y ait eu plus d'intervenants dans la mesure où c'était là que se trouvait le gros du travail pour ces décors spécifiques. Alors, est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, il faut aller un pas plus loin et imaginer que nous avions des enlumineurs qui étaient spécialistes des décors de design, d'autres des vignettes et d'autres de l'écriture ? Il faudra avoir complètement vu l'ensemble du manuscrit pour arriver à une conclusion certaine. Nous ne disposons d'aucun élément pour élucider la manière dont étaient organisées les équipes, c'est-à-dire s'il y avait un chef ou si quelqu'un menait le travail. Mais en tous les cas, on voit qu'il y avait des équipes et qu'elles s'adaptaient aux nécessités, puisqu'il n'y a pas vraiment de bloc homogène. À partir du deuxième, il y a des interférences avec le troisième, sans doute précisément parce que le travail devait avancer. Le manuscrit est l'unique représentant de la division du texte coranique en 28 tomes. Alors, est-ce que c'était une spécificité d'une région particulière du monde musulman à l'époque ancienne ? On pourrait, je le disais tout à l'heure, penser à l'Occident musulman et à ses lectures de Ramadan, mais ça n'est pas le cas pour les raisons que j'ai déjà dites. En revanche, ni la ponctuation des fa, ni et des kaf, ni l'équivalence entre sin et 60 ne correspondent à un usage maghrébin. Donc je crois que cet élément est suffisamment fort pour qu'on écarte l'idée que la transcription et la production du manuscrit ait eu lieu à Kérouan ou dans un autre endroit du Maghreb, et je propose pour ma part d'attribuer cette copie au Proche-Orient. Tarif As-Saman, que je mentionnais tout à l'heure, suggérait Damas. Ça me semble peut-être trop précis, surtout que, vous allez le voir, la date est un peu tardive. À cette époque, Damas avait un peu perdu de sa splendeur. Nous n'avons pas de traces de colophon ni d'actes de waqf, je le disais au début. À la fin des tomes, le décor venait directement après le texte, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas la place pour mettre un colophon. Donc je crois qu'on peut éliminer le premier. Il y avait peut-être un acte de waqf, mais il a disparu et il ne reste que la note que je présentais au début indiquant que le manuscrit avait été donné à la grande mosquée de Kérouan. Est-il pour autant le premier acte de waqf ? Ça, c'est une autre question. L'écriture, de son côté, qui s'apparente plutôt au style des 5B et qui présente des formes proches de des 5C, voire sur certains points de NS, du nouveau style, sont datables de la fin du 9e ou du début du 10e. Les vignettes en boutons, qui sont majoritaires, celles qui sont bien compactes, et se distinguent de la tendance que je crois pouvoir discerner au 9e siècle, où les rinceaux dominent, m'invitent à proposer de dater le manuscrit de la première moitié du 10e siècle, et même plutôt du premier quart du Xe siècle. Donc, nous aurions un manuscrit produit au Proche-Orient, au début du Xe siècle, à une époque où le style de l'écriture est en train de changer et le manuscrit en porte quelques traces. De même, l'utilisation d'une vocalisation extrêmement précise avec les voyelles, les tajdid et les hamza invite plutôt à y voir quelque chose de tardif. Comme pour le Coran bleu, l'inventaire permet de conclure que le manuscrit, qu'on pourrait appeler donc le Coran doré en 28 volumes, ce serait sans doute plus précis, était à Kairouan au début du XIIe siècle. Il n'a pas été produit sur place, c'est sûr, et la question se pose de savoir quel en fut le commanditaire. Est-ce un membre de l'une des deux dynasties qui se succèdent en Ifriqiya entre la fin du IXe et le début du Xe, les Aghlabides puis les Fatimides, ou a-t-il été apporté par un Ziride, c'est-à-dire ceux qui succèdent aux Fatimides, avant les heures sombres de l'invasion hilalienne? Pour le moment, rien ne permet de trancher cette question. Je vous remercie.